Merci à vous d'écouter Radio France Internationale. Il est 20h30 ici à Paris, 19h30 à Kinshasa, 18h30 en temps universel. Et c'est l'heure de retrouver la première édition d'Afrique Soir, toute l'actualité sur le continent pendant 30 minutes. Ça se passe avec Zéphirin Quadio qui est à mes côtés. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. À la une, Donald Trump nomme un conseiller Afrique. Il s'agit de Massad Boulos, un homme d'affaires libano-américain qui était déjà conseiller sur le Moyen-Orient et les pays arabes. Ses fonctions sont donc élargies. Et puis en République démocratique du Congo, peine de mort commuée en prison à vie pour 3 ressortissants américains. Ils avaient été condamnés à la peine capitale pour leur participation à un coup d'État manqué en mai 2024 à Kinshasa. En Côte d'Ivoire, le cacao n'a jamais été aussi cher. Une augmentation du prix de l'or brun de plus de 20% par rapport au prix marchand de la récolte principale qui s'est achevée fin mars. Et puis une page douloureuse de l'histoire récente du Sénégal s'est rouverte ce mercredi. Celle des violences commises lors des manifestations de l'opposition entre février 2021 et 2024. Enfin, à l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril prochain au Gabon, RFI donne la parole à l'ensemble des 8 candidats en lice. Ce soir, place à Zenaba Nyanga Shanning, la seule femme candidate. Oui, Donald Trump élargit donc les missions de Massad Boulos, homme d'affaires libano-américain et proche de la famille Trump. Déjà conseiller du président américain pour les pays arabes, il hérite à présent du dossier africain. Longtemps discret, ce mania de l'automobile basé au Nigeria connaît une ascension express portée par ses réseaux et ses liens familiaux. Massad Boulos est en effet le père du mari de Tiffany Trump. Le reste, c'est Christina Okello qui raconte.
Massad Boulos est né au Liban dans une famille grecque orthodoxe bien connue, originaire d'un village producteur d'huile d'olive dans le nord du pays. Après des études en administration des affaires au Texas, il s'installe en Afrique de l'Ouest et prend la tête de SCOA Nigeria, une entreprise qui vend, loue et entretient des véhicules. C'est un homme d'affaires discret, tellement discret que son profil public ne colle pas toujours à la réalité. Boulos est souvent présenté comme un magnat milliardaire, mais selon le New York Times, son entreprise n'a généré que 66 000 dollars de bénéfices l'an dernier. Sa fortune viendrait surtout de son épouse, héritière d'un empire actif en Afrique centrale, et son influence à Washington aussi. Il est le beau-père de Tiffany Trump, l'une des filles du président américain. Déjà conseiller de Donald Trump pour les pays arabes, il a récemment servi d'intermédiaire entre Trump et Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Alors pourquoi a-t-il été nommé? C'est surtout pour son carnet d'adresses. C'est Massad Boulos qui a aidé Trump à séduire l'électorat arabo-américain lors des dernières élections. Un atout politique, selon ses proches, n'est une nomination qui, pour ses détracteurs, doit davantage aux liens familiaux qu'à l'expertise.
Christina Okello, j'ajoute que dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Massad Boulos entamera une tournée africaine dans 4 pays, dont la République démocratique du Congo. Objectif, selon le département d'État américain, faire progresser les efforts pour une paix durable dans l'est de la RDC et promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région. Eux avaient été condamnés à mort lors du procès du coup d'État raté du 19 mai 2024 en RDC. 3 ressortissants américains détenus à Kinshasa viennent de voir leur peine commuée en prison à vie. Une grâce présidentielle accordée à la demande du ministère public, annonce faite hier soir en direct à la télévision. À Kinshasa, les précisions de Pauline Azidi.
Les ordonnances officielles ont été lues hier soir par la porte-parole du président Tshisekedi, Tina Salama. Les 3 Américains avaient été condamnés à la peine capitale lors du premier procès, peine confirmée en appel le 27 janvier. Comme la loi l'y oblige, le ministère public avait donc demandé une grâce accordée par le président de la République. Décision désormais irrévocable selon l'ordonnance. C'est important cette modification de peine puisque la RDC, qui n'exécutait plus ses condamnés depuis 20 ans, a levé son moratoire il y a un an. Avec cette ordonnance, Marcel Malanga, Tyler Christian Thompson et Benjamin Zalman peuvent désormais demander leur extradition aux États-Unis pour y purger leur peine. Ils avaient été condamnés pour leur participation à ce que les autorités ont qualifié de coup d'État manqué lorsqu'un groupe d'hommes armés avait attaqué la résidence de Vital Kamerhe ainsi que le palais de la nation siège du pouvoir. Le père de Marcel Malanga, Christian Malanga, lui aussi ressortissant américain et présumé chef du commando, avait été tué lors de l'intervention des forces de l'ordre. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et cette grâce intervient alors que le conseiller spécial du président américain américain pour l'Afrique est attendu demain jeudi à Kinshasa. En Côte d'Ivoire, le cacao n'a jamais été aussi cher. 2200 francs CFA, soit environ 3,50 euros. C'est ce qu'il faudra débourser désormais pour un kilo d'heure brun. Le ministre ivoirien de l'Agriculture l'a annoncé aujourd'hui à Abidjan à l'occasion du lancement officiel de la campagne intermédiaire de récolte. C'est une augmentation de plus de 20% par rapport au prix marchand de la récolte principale qui s'est achevée fin mars. Reportage Benoît Almiras.
L'annonce du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani était très attendue.
Le kilogramme de cacao bien fermenté, bien trié et bien séché est fixé à 2200 francs.
Applaudissements pour un prix record. Chantal est productrice près de Daloa.
Je ne m'attendais pas à cela. Je ne pensais pas que ça allait aller au-delà de 2000 francs. Et ça va nous permettre de mieux nous prendre en charge, de pouvoir payer réellement la scolarité de nos enfants.
Albert est aussi satisfait, mais ce planteur de Diokoué se demande si l'augmentation permettra de lutter contre la contrebande.
Je pense qu'il fera encore plus pour pallier au trafic de cacao qui va vers la Guinée, vers le Libéria. Mais vraiment, c'est déjà très bon, ils sont vraiment très émus. C'est un jour extraordinaire, vraiment.
Moussa Kone dirige le Synapsi. Pour ce syndicat agricole, le prix annoncé est insuffisant, notamment face au réchauffement climatique.
Les gens acclament, mais la réalité du terrain est autre chose. Aujourd'hui, on est confronté à un problème climatique. La production risque de disparaître. Et c'est ça qui est le vrai point.
Le cours mondial du cacao est actuellement de 7500 euros la tonne, plus de deux fois le prix marchand pratiqué en Côte d'Ivoire. Benoît Almiras, Abidjan, RFI.
Notez par ailleurs que plusieurs députés du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et des militants ont manifesté ce mercredi devant le palais de justice d'Abidjan au moment où se déroulait une audience concernant la légitimité du chef de leur famille politique, élu président du PDCI en décembre 2023 et candidat déclaré à la présidentielle d'octobre prochain. Tidjane Thiam voit sa légitimité contestée par une militante de son parti qui a saisi la justice. Une décision sera rendue le 11 avril à ce sujet. Une page douloureuse de l'histoire récente du Sénégal rouverte aujourd'hui, celle des violences commises lors des manifestations de l'opposition entre février 2021 et 2024, violences qui ont coûté la vie à au moins 65 personnes. Après l'adoption d'une loi d'amnistie controversée il y a un an sous la présidence de Macky Sall, aujourd'hui les députés se penchent sur un projet de révision de ce texte pour que les crimes de sang puissent être jugés. Mais Léa Lisa Vesteroff, cette proposition de loi faite par le parti au pouvoir, le PASTEF, divise les Sénégalais. Léa Lisa Vesteroff, qu'on ne peut plus joindre puisque la liaison a été rompue. On va poursuivre donc le déroulement de cette édition, cette première édition d'Afrique Soir. Et direction le Burkina Faso, le service de sécurité a publié hier mardi une liste de 32 noms, portraits de personnes recherchées pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Un avis de recherche où figurent bel et bien des djihadistes, mais aussi des journalistes ou des hommes politiques, Frédéric Gara.
Sur la page Facebook du ministère de la Sécurité est publié un trombinoscope, une liste de noms assortie de photos. Pêle-mêle, on y trouve des leaders djihadistes comme Jafar Diko, chef du groupe Ansarul Islam, ou bien Amadou Diko, des lanceurs d'alerte comme Naïm Touré ou Aminata Racho, ou encore l'ex-maire de Dori, Ahmed Aziz Diallo. Des ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur, si l'on en croit le chef de la junte militaire, Ibrahim Traoré, qui s'exprimait hier lors de la levée des couleurs au Burkina Faso.
Quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance, parce que aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Nous les attendons de pied ferme. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables.
Parmi les hommes et les femmes suspectés de complot contre l'État ou d'activités terroristes, le journaliste exilé et ancien président de la commission électorale, Ahmed Newton Barry.
L'objectif qui est visé, c'est de nous infamer au point de nous faire taire. Malheureusement, on aurait pu dire Tartuffe, parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui près de 100 soldats tués, une dizaine de camps militaires investis par des terroristes, et puis prétendre que tout va bien. C'est une politique d'effet d'annonce, de fuite en avant.
La publication de cette liste et ses accusations d'un complot ne sont sans doute pas le fruit du hasard. Ces derniers jours, les attaques meurtrières, comme celle du camp militaire de Diapaga, et les arrestations de civils, comme plusieurs membres du mouvement Sens, se sont multipliées au Faso.
Au Niger, l'annonce a fait hier soir l'ouverture du journal de la télévision nationale. 58 personnes, des militaires et d'anciens ministres ont été graciés. Leurs libérations sont en cours. C'est le secrétaire général du gouvernement qui est venu lire le décret signé par le numéro 1 de la junte, le général Tchani. Et l'ex-président Mohamed Bazoum ne fait pas partie des bénéficiaires de cette grâce. Guillaume Thibault.
C'était l'une des recommandations des assises de février dernier et c'est ainsi que la junte a justifié ses grâces. Dans le communiqué du gouvernement, il est indiqué « Ces personnes bénéficient d'une remise en liberté, d'une remise totale de peine, conformément aux recommandations des assises nationales pour la refondation. 42 militaires et 16 civils sont donc concernés, notamment 4 anciens ministres intimes de la famille politique de l'ex-président Bazoum, Kala Moutari, ancien ministre de la Défense, ses homologues aux finances et à l'énergie, Ahmed Jidou et Ibrahim Yakoubou, et Mahaman Sani Issoufou, dit Abba, l'ex-ministre du pétrole et fils de l'ancien chef de l'État Mahamadou Issoufou, qui a lui-même participé aux assises. Foumakoy Gado, l'ancien président du parti au pouvoir, est également sur la liste. Parmi les militaires graciés, certains étaient détenus au secret depuis le putsch de juillet 2023. Des observateurs de la vie politique évoquent un début de décrispation, même si l'ex-président Mohamed Bazoum, mais également sa femme et le leader de la société civile, Moussa Tchangari, n'ont pas été graciés par le général Tchani.
Guillaume Thibault, et puis retour au Sénégal, où une page douloureuse de l'histoire récente du pays s'est rouverte aujourd'hui, celle des violences commises lors des manifestations de l'opposition entre février 2021 et 2024, violences qui ont coûté la vie à au moins 65 personnes. Après l'adoption d'une loi d'amnistie controversée il y a un an sous la présidence de Macky Sall, aujourd'hui les députés se penchent donc sur un projet de révision de ce texte pour que les crimes de sang puissent être jugés. Mais Léa Lisa Vesterov, cette proposition de loi faite par le parti au pouvoir, le PASTEF, divise bien sûr les Sénégalais, Léa.
Oui, Zéphirin, et même si l'adoption de ce projet de loi interprétatif fait peu de doutes, dans une Assemblée nationale dominée par les députés du PASTEF qui ont la majorité absolue, la fracture qu'elle provoque n'est pas moins visible. Comment garantir une justice équitable après le traumatisme collectif des manifestations et de leur répression violente ces 3 dernières années? Voilà la question qui anime les élus aujourd'hui. Du côté du PASTEF, pas de doute, il faut retirer, exclure de l'amnistie les cas d'assassinat, de meurtre, de torture et de traitement inhumain pour que les 65 personnes tuées, 83 selon plusieurs députés du PASTEF, puissent porter plainte, obtenir justice et réparation. Est-ce qu'au nom de la réconciliation nationale, nous devons passer l'éponge sur ces crimes qui ont coûté la vie à plus de 80 personnes, ont plaidé plusieurs députés du parti au pouvoir, ou encore fermer les yeux sur les nervis, le nom attribué aux supplétifs des forces de l'ordre, accusés d'être responsables d'une grande partie des morts au Sénégal.
Et ces parlementaires, Léa Lisa, parlent de la nécessité de sanctionner pour que cette violence ne puisse pas se reproduire.
Oui, plus jamais ça, répète-t-on ici à plusieurs reprises, mais en face, dans le camp de l'opposition, on brandit le risque d'une justice sélective. Sélective car selon ce projet de loi, les personnes qui ont commis des dégâts matériels, brûlé des bus ou autres, resteront bénéficiaires de l'amnistie. Pour une partie de la population, c'est donc une justice des vainqueurs où les forces de l'ordre seraient les principales visées. Une approche dangereuse pour la cohésion nationale et la réconciliation selon eux. Voilà déjà 7 heures que les députés débattent. Ils ont jusqu'à minuit ce soir pour voter le texte de loi proposé par le PASTEF.
Merci Léa Lisa Vesterov en direct de Dakar. En Guinée, la date du référendum constitutionnel est enfin connue. Le général Mamadi Doumbouya a fixé la tenue du scrutin au 21 septembre prochain, soit dans un peu moins de 6 mois. Un premier lot de kits biométriques a atterri hier à l'aéroport de Conakry. Ils serviront à la campagne d'enrôlement des électeurs censée débuter dans 2 semaines. Mais il subsiste toujours un flou sur la manière précise dont sera confectionné le futur fichier électoral. Et puis, la Sierra Leone a lancé ce mercredi une campagne de vaccination contre le Mpox ou variole du singe. Les personnels de santé en première ligne en cas d'épidémie et les enfants âgés de plus de 12 ans ont été les premiers à être ciblés avec un peu plus de 60 000 doses fournies par l'OMS. La Sierra Leone a déclaré son premier cas confirmé de Mpox le 11 janvier dernier après le déclenchement en 2024 du plus haut niveau d'alerte mondiale contre cette maladie virale potentiellement mortelle.
Et bien voilà pour le journal. Merci beaucoup à vous Zéphirin. On va vous retrouver pour la seconde partie d'Afrique Soir. Mais d'abord les titres de l'actualité internationale de ce mercredi soir. Et d'abord les États-Unis. Donald Trump qui appelle le jour de la libération ce mercredi. Le président américain doit annoncer de nouveaux droits de douane synonymes d'une généralisation de la guerre commerciale. C'est une intervention qui est très attendue. Il doit s'exprimer, le président américain, à 20h temps universel depuis la Maison Blanche. Il y a plusieurs options qui circulent. Est-ce que les États-Unis vont imposer une taxe unique de 20% sur toutes les importations ou bien des droits de douane variables selon les pays de provenance des marchandises? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cela pourrait coûter cher aux ménages américains et nourrir ainsi un fort ressentiment contre le président. Et puis, autre grand titre ce soir, la France, toujours le débat qui porte actuellement sur l'indépendance de la justice deux jours après la condamnation de Marine Le Pen. La chef de file des députés du Rassemblement National, le parti d'extrême droite, déclarait inéligible pour 5 ans, ce qui compromet ses chances de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Marine Le Pen et le RN qui dénoncent tous deux le principe de l'exécution provisoire concernant les peines d'inéligibilité qui rend immédiatement applicables ces peines sans attendre les recours. Aujourd'hui, la tête de l'État français a apporté un soutien ferme à l'indépendance de la justice, à savoir le président Emmanuel Macron et le Premier ministre François Bayrou.
Afrique Soir.
Ah voilà, c'est l'heure de la seconde partie d'Afrique Soir, Zéphirin Quadio. Quel programme ce soir ?
On part pour l'instant en football, où les 16 équipes qui participent à la CAN des moins de 17 ans au Maroc ont désormais joué leur premier match, jour de pause ce mercredi, cependant avant la reprise demain, avec notamment le deuxième match du pays organisateur, le Maroc, qui affrontera la Zambie. Rappelons par ailleurs que cette compétition a longtemps été marquée par des suspicions de fraude sur l'âge réel des joueurs. Mais depuis 2011, la CAF a mis en place un dispositif réglementaire pour s'en assurer. Les explications de François Mferkataji.
L'IRM évalue la maturation osseuse du poignet gauche pour déterminer l'âge biologique du joueur. Selon le règlement, ces tests ont obligatoirement lieu avant la phase des qualifications et potentiellement juste avant le tournoi. Selon le règlement toujours, si 4 joueurs ou plus sont déclarés non éligibles, c'est l'équipe entière qui est éliminée. Avant la compétition, le Burkina Faso s'est vu privé de 8 joueurs, mais a tout de même pu aligner une équipe au Maroc. Le coach Oscar Barrault a dû s'adapter en dernière minute.
Moi, j'ai mon capitaine même qui n'est pas venu. Ça veut dire que c'était mon métronome qui n'a pas été élu. J'ai mon meilleur milieu qui n'est pas venu. J'ai mon meilleur latéral qui n'est pas venu. J'ai mon meilleur couloir qui ne sont pas venus. Donc, il faut parer à tout ça d'un coup. Mais voilà, nous sommes des entraîneurs, nous sommes des compétiteurs. Il faut faire avec et trouver tout de suite la solution.
La plupart des fédérations saluent la mise en place de cette réglementation, mais les disqualifications lors des phases préliminaires de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone ont créé de la déception. Et pour certains sélectionneurs, le calcul de la masse osseuse ne permet pas toujours d'attester formellement qu'un joueur a plus de 17 ans. L'entraîneur des cadets sénégalais, Pape Ibrahima Faye, s'est exprimé à ce sujet chez nos confrères de Sport L.
Un garçon peut être réellement U17, mais avec les charges d'entraînement, avec l'alimentation, avec les conditions de vie, l'enfant peut grandir plus vite qu'un autre de la même catégorie.
Le corps médical, lui, affirme que ces tests sont très fiables. François Mferkataji, Casablanca, RFI.
À l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril au Gabon, RFI, je vous le disais, donne la parole à l'ensemble des 8 candidats en lice. Vous avez pu entendre sur notre antenne la semaine dernière une longue interview du président de la transition, Brice Clotaire-Oligui-Nguema. Vous avez également pu entendre Alain-Claude Billy Binzé. Ce soir, place à la seule femme candidate, Zenaba Nyenga Chaning, à 36 ans. Elle a créé plusieurs entreprises à Libreville et elle espère pouvoir développer la fibre entrepreneuriale dans son pays. Le 7 février dernier, elle avait été la première à se déclarer officiellement au scrutin. François Mazet lui a donc demandé pourquoi.
Je suis gabonaise et je suis patriote. Et que je me rends compte que dans les conditions que vivent les Gabonais, ce n'est plus possible. Je me suis levée, effectivement, j'ai été la première parce que j'ai posé certainement un cri de cœur en disant que assez, il faudrait qu'il y ait une certaine rupture avec le système en place et qu'il faudrait éventuellement une nouvelle personne qui veut réellement changer les conditions de vie des Gabonais.
Donc ça veut dire que selon vous, la rupture qui a été promise à partir du 30 août 2023 n'a pas eu lieu?
Je ne vais pas rentrer dans la critique, mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'effectivement, on a promis des choses à des Gabonais certainement qui n'ont pas été réalisées et qu'aujourd'hui, il faudrait réellement une vraie rupture.
Alors justement, qu'est-ce que vous proposez aux Gabonais pour rompre avec ces pratiques du passé que vous dénoncez?
Déjà, ce serait une nouvelle classe politique, une personne qui est totalement différente du système, qui n'a ni appartenu au système PDG, ni au système actuel. C'est de dire aux Gabonais qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle classe politique qui se met en place parce qu'ils ont réellement des convictions pour le Gabonais. Et de dire aux Gabonais qu'aujourd'hui, voilà, il y a une nouvelle personne qui s'est levée et on va changer les conditions de vie des Gabonais pour qu'ils soient plus épanouis dans leur pays. Un pays aussi riche ne peut pas avoir autant de pauvres.
Donc, il faut changer le personnel politique. Et en termes de politique, qu'est-ce qu'il faut changer ?
Pour mon programme, je pense qu'il faut arrêter d'assouvir les Gabonais. Il faut arrêter de rendre les Gabonais pauvres. Il faut éventuellement donner du travail aux Gabonais. Ça, c'est important. Mettre des mécanismes en place pour pas justement avoir des gens qui sont mécaniquement, qui ont été mis volontairement comme ça dans la souffrance. Je pense qu'il faut développer le secteur privé. Vous savez, aujourd'hui, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde à la fonction publique. Il faut savoir que la fonction publique aujourd'hui, même si on met des mécanismes pour embaucher des Gabonais, ce serait éventuellement très compliqué. C'est un système qui a déjà été fait. Ils ont essayé d'intégrer beaucoup de monde dans la fonction publique, mais ça ne marche plus. Il faudrait mettre des possibilités au pays, chercher des investisseurs, trouver des Gabonais sur place capables, justement d'ouvrir des entreprises privées pour embaucher le maximum de Gabonais.
Vous serez la seule femme en lice à cette élection. Est-ce que c'est une déception pour vous? Est-ce que cela prouve que le Gabon a besoin de progresser sur ce sujet de la place des femmes en politique?
Vous savez, il y a une expression gabonaise qui dit la place de la femme, c'est la cuisine. De toute façon, je pense qu'elle n'est pas gabonaise, elle est généralement africaine. Déçue qu'il n'y ait qu'une seule femme en lice, je dirais non. Parce que je pense qu'effectivement, si on était plus nombreux, ce serait bien. Mais je dirais non dans le sens où, déjà, c'est compliqué, je vais vous dire, pour prendre ce que je subis au quotidien. Parce que savoir que je subis beaucoup de sexisme, je subis, les gens ont l'impression qu'une femme, elle n'est pas à sa place en politique. Et je viens justement démontrer, et je me lève tous les jours avec la conviction qu'ils vont comprendre que la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine, mais elle est bien en politique.
Voilà, Zenaba Nyenga Chaneng, interrogée par François Mazé, pour en savoir plus. L'intégralité des interviews des candidats avec leurs motivations et leurs programmes seront à retrouver dans un article spécifique sur notre site internet rfi.fr. Ils sont considérés comme des symboles parmi les plus connus de la tradition Yacouba dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. 4 ponts de lianes suspendus au-dessus du fleuve Cavali et qui attirent les visiteurs de toute la région. Mais ces structures réputées magiques sont menacées par la déforestation. Pour préserver cet héritage, la direction régionale du tourisme veut donc lancer des pépinières d'arbres à lianes. Pour ce deuxième volet de notre série de reportages consacrée aux ponts de lianes de l'ouest ivoirien, Benoît Almera s'est rendu dans le village de Lieupleu.
C'est un pont de liane qui est au-dessus du Cavali. Alors il faut essayer de le traverser, il faut bien se tenir, parce que sinon on va passer au travers en fait.
À 3 mètres au-dessus du fleuve, les aventuriers n'emmènent pas large sur l'enchevêtrement de branches qui grincent.
Est-ce que ça va madame?
Ça va pas.
Florence est institutrice, elle est venue avec sa famille jouer les Indiana Jones.
J'avais l'impression que le pont bougeait. Quand je regardais en bas, en tout cas, il y avait la trouille. Vraiment, ça fait peur. Mais en même temps, il y a beaucoup d'émotions, c'est émouvant, tout ça. Tout le monde a vraiment l'envie de venir voir ce pont qui, du jour au lendemain, on voit, il y a un pont qui existe, on ne sait pas comment.
Lieupleu fait partie des 4 ponts de lianes historiques de la région. Les villageois les traversaient pour aller aux champs. Aujourd'hui, les touristes visitent chaque jour ces passerelles éphémères. Valère Bas est l'un des guides locaux.
Quand l'eau emporte ça, les initiés disent aux guyots de chanter pour couper les lianes. On prend les camions pour aller couper les lianes, pour mettre les lianes dedans pour envoyer.
Une puissance magique construirait ensuite les ponts en une nuit. Il est interdit de marcher dessus avec ses chaussures ou de mâcher un chewing-gum quand on traverse. Problème, les lianes sont de moins en moins disponibles, selon Valère Bas.
Avant, le liane était là, mais maintenant, le liane, là, c'est vraiment dur à rechercher. Ici, avant, il y avait les forêts, mais maintenant, là, cacao, café, les parents, ils ont planté, nous-mêmes, on a planté. Donc, les lianes disparaissent comme ça.
Pour trouver des arbres à lianes, il faut faire 100 km jusque dans les pays voisins. Le docteur Doudjo Ouattara est biologiste forestier.
Il y a une raréfaction qui est réelle et qui est liée donc à la déforestation générale que connaît la Côte d'Ivoire. Donc, si ces plantes disparaissent, et quelle que soit la bonne volonté des communautés, ben, elles ne pourront pas tisser ces ponts.
Ce chercheur à l'université Nangui Abrogo à Abidjan veut sauvegarder les arbres à lianes.
Déjà, de faire un inventaire des espèces qui sont utilisés par ces communautés et in fine faire des réintroductions dans la nature et augmenter donc le stock de ces plantes.
Un projet initié et soutenu par la direction du tourisme de la région du Tonkpi. Benoît Almeras, Lieupleu, RFI.
Et place à la musique dans Afrique Soir avec la sortie de Dibango 82, un enregistrement live inédit de Manu Dibango du début des années 80. La légende africaine entourée de ses 8 musiciens, un mix funk, jazz et rythme africain sur des classiques tels que Africa Boogie et Waka Juju. Dibango 82 que Pierre Vallée nous invite à découvrir.
Monstre sacré de la musique africaine, Manu Dibango a connu un succès international au début des années 70 grâce à son titre Soul Makossa. Un groove à la fois détendu et efficace, basé sur le Makossa, un rythme typique de la région de Douala. Le morceau cartonne, notamment aux États-Unis, grâce aux DJ les plus branchés de New York qui le jouent dans les clubs tendances de la ville. Plus tard, le morceau sera utilisé, pour ne pas dire copié, par Michael Jackson et Rihanna sans forcément demander l'autorisation, ce qui leur coûtera cher. Mais l'histoire de Manu Dibango ne se limite pas à ce pic de popularité. Sa carrière longue de 60 ans est riche de nombreuses expériences. Après s'être frotté au jazzman new-yorkais, il sera embauché par Fania All Stars, peut-être le meilleur groupe de salsa, avant de diriger l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne, puis de s'essayer au reggae pour un excellent album sobrement intitulé Manu Dibango à la Jamaïque, enregistré avec la crème des musiciens de Kingston. Ce nouveau disque, Dibango 82, enregistré au Théâtre de la Criée à Marseille, capture Manu Dibango et son groupe pendant la tournée française qui suivit la sortie de l'album Waka Juju et qui se joua à guichet fermé. Un album sous-estimé dans la discographie de Manu Dibango qui rend hommage au Juju, la musique traditionnelle Yoruba très populaire au Nigeria et qui marque le retour de Manu à un son plus africain après ses nombreux détours. Nasso.
Boogie, extrait de Dibango 82, un enregistrement live inédit de Manu Dibango du début des années 80, chronique signée Pierre Vallée et spéciale dédicace à Romain Ozon.
Oh,
c'est
ça,
à vous.
C'est beau, vous me passez bien la balle. Merci beaucoup Zéphirin Codio. C'était la première édition d'Afrique Soir de ce mercredi. On va vous retrouver dans 30 minutes pour la seconde partie d'Afrique Soir. D'ici là, on jette un coup d'œil au programme qui nous attend, puisque la session d'info évidemment se poursuit sur RFI. Dans moins de 2 minutes, ce sera le journal de 19h, temps universel, qui sera présenté par Clotilde Dumay. Et puis 10 minutes plus tard, toujours avec Clotilde Dumay, le décryptage consacré à ce qui fait toujours la une de l'actualité française ce soir, les suites de la condamnation de Marine Le Pen. Il y a 2 jours, déclarée inéligible pendant 5 ans. Pourquoi la représentante de l'extrême droite française et tous ses soutiens dénonce une décision politique. Nous reviendrons sur les motivations des juges. Et puis, après la seconde partie d'Afrique Soir, dans 40 minutes, le grand reportage qui sera ce soir à Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France. Saint-Nazaire, un port d'attache pour les réfugiés ukrainiens. Voilà pour le programme. Merci de nous écouter. Et merci à Raphaël Lazizi qui était à la réalisation de cette tranche d'information africaine. Ne bougez pas, on revient dans une minute sur RFI.
Demain, sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Ils se sont formés dans l'effervescence des rues de Kinshasa. Leurs instruments sont faits main, avec des matériaux de récupération. Leurs compositions, mi-punk, mi-électro. Kingongolo Kinyata sort son premier album, Kinyata, et ils viendront fêter ça sur RFI.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI. Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes, drames ou comédies avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.